Bonjour à tous, il est 15h ici à Paris. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellichat.
À Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent et la population palestinienne mène une vie de plus en plus difficile. Entre déplacements et recherche quotidienne de nourriture, l'ONU prévient de nouveau dans un rapport publié aujourd'hui, la famine guette. Comment faire contrepoids à l'arrivée prochaine de Donald Trump dans le bureau ovale? Beaucoup s'interrogent dans l'administration démocrate finissante, notamment sur le dossier ukrainien. Des employés de sociétés militaires américaines sont envoyés dans le pays, loin du front, pour dépenser l'enveloppe budgétaire accordée à Kiev pendant qu'il est encore temps. Et puis en France, l'autobiographie de Jordan Bardella, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, sort aujourd'hui. L'ouvrage du président du Rassemblement National révèle une très forte ambition, nous dira Raphaël Delvolvé dans le journal. Au Proche-Orient, à Gaza, l'offensive israélienne se poursuit. Encore ce matin, la défense civile annonce la mort de 14 personnes tuées dans deux frappes israéliennes, l'une sur une école, l'autre sur un camp de déplacés. Et les conditions de vie de la population palestinienne ne cessent de se dégrader dans l'enclave, soumise aux déplacements incessants au gré des bombardements, toujours soumise au blocus israélien, l'aide alimentaire est quasiment coupée. Elisa Fellier, bonjour.
Bonjour.
Un rapport de l'ONU publié aujourd'hui met en garde la famine guette.
Les seuils de famine ont peut-être été franchis ou le seront dans un avenir proche. Voilà ce que précise le dernier rapport de l'ONU. La surmortalité due à la malnutrition et aux maladies ne fait qu'augmenter car l'acheminement de l'aide humanitaire devient quasi impossible avec la poursuite des opérations militaires. Les autorisations de livraison d'aide se font de plus en plus rares dans la bande de Gaza. Leur nombre n'a jamais été aussi bas depuis octobre 2023. En parallèle, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et les conditions d'hygiène sont dans un état critique. Les experts de l'ONU s'étaient déjà alarmés le 17 octobre dernier. Ils estimaient alors que 16% des Gazaouis seraient confrontés entre novembre et avril 2025 à un niveau de faim qualifié de catastrophique, c'est-à-dire le niveau le plus élevé sur l'échelle de l'insécurité alimentaire. Face à ce terrible constat, l'ONU appelle la communauté internationale à réagir. Si rien n'est fait rapidement, ce sont des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui risquent de sombrer dans la famine.
Elisa Fellier du service international de RFI. Les frappes israéliennes se poursuivent également au Liban. 7 personnes ont été tuées dans la ville de Tyr. L'armée israélienne a aussi procédé à des raids aériens en Syrie, au nord, dans la région d'Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme indique que ces frappes ont ciblé des installations militaires. Au Pakistan, un attentat revendiqué par des séparatistes baloutches a fait 26 morts, dont 14 soldats, sur un quai de la principale gare de Quetta, au Baloutchistan. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 6 ans dans cette province pauvre du sud-ouest du pays. Depuis son élection, Donald Trump multiplie les appels aux dirigeants étrangers. Le président américain élu a notamment discuté avec Volodymyr Zelensky. L'entourage du président ukrainien précise officieusement que ce coup de fil s'est passé en présence d'Elon Musk. Le patron de Tesla devrait faire partie de la future administration républicaine, mais on ignore à quel poste. Avant le 20 janvier et les promesses de Donald Trump de mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, les États-Unis ont confirmé leur intention d'envoyer des employés de sociétés militaires américaines sur le sol ukrainien, loin du front. L'administration démocrate, encore en place, cherche à dépenser l'enveloppe budgétaire votée en faveur de l'Ukraine avant son départ. Et cette décision d'autoriser l'envoi de sous-traitants du Pentagone s'inscrit dans cet ultime effort pour prêter main forte à Kiev avant que la nouvelle équipe ne prenne possession des lieux. Romain Lemaresquier.
Il s'agira d'un nombre limité d'employés de sous-traitants du Pentagone et ils seront situés loin des lignes de front, ce qui signifie donc qu'ils ne seront pas engagés au combat, précise un responsable américain. La décision d'autoriser des sociétés militaires privées à partir en Ukraine a pour but de faciliter et d'accélérer la maintenance d'une partie du matériel américain fourni par les États-Unis, mais également par d'autres pays alliés à l'Ukraine. Il est notamment question de la maintenance des fameux F-16 qui ont commencé à être livrés au mois de juillet dernier, mais aussi des véhicules de combat de outils Bradley, des systèmes de défense aérienne et d'autres matériels que les autorités américaines préfèrent ne pas divulguer. L'idée étant d'accélérer le processus de maintenance. Jusqu'à présent, lorsque ce type de matériel était très endommagé, et même si les mécaniciens ukrainiens ont beaucoup progressé depuis le début du conflit, l'Ukraine devait l'envoyer à l'étranger pour être réparé, principalement en Pologne où l'armée américaine dispose de grandes ressources. Une perte de temps qui avait un impact direct sur le front pour l'armée ukrainienne. Petite précision, les employés américains qui travailleront prochainement en Ukraine ne le feront pas sous la responsabilité du Pentagone, mais sous celle de leur employeur.
Josep Borrell est lui arrivé à Kiev, une visite du chef de la diplomatie des 27 qui vise à rassurer l'Ukraine du soutien européen malgré la possible défaillance américaine. Deux nouveaux avions sont encore affrétés aujourd'hui pour rapatrier les supporters israéliens toujours présents à Amsterdam après les violences dans la nuit de jeudi à vendredi. En Italie, malgré les mises en garde israéliennes à ses supporters, aucun incident n'a été signalé après le match de basket à Bologne hier soir. Il a opposé l'équipe de la ville au Maccabi Tel Aviv. En Espagne, la colère ne retombe pas après les terribles inondations qui ont fait 219 morts il y a 10 jours. 89 personnes sont toujours disparues dans la région de Valence. Le déluge de boue est loin d'être évacué. La reconstruction prendra du temps et les sinistrés ont toujours le sentiment d'avoir été abandonnés à leur sort. Le roi et le premier ministre, copieusement hués, en avaient fait les frais en déplacement dans la région il y a quelques jours. Les autorités locales sont aussi pointées du doigt. Des manifestations sont prévues comme à Valence ce soir pour réclamer la démission du président de la région, Carlos Mazón, est accusé de graves défaillances. En France, le livre du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est disponible aujourd'hui dans les librairies. Publié chez Fayard, propriété de Vincent Bolloré, le dirigeant du parti d'extrême droite bénéficie d'une large promotion. Raphaël Delvolvé, l'ouvrage montre l'ambition politique du jeune eurodéputé de 29 ans.
L'objectif semble clair, offrir le visage d'une extrême droite ambitieuse, définitivement normalisée et plus populiste que jamais. Jordan Bardella insiste notamment sur ses origines sociales, descendant d'immigrés italiens et algériens. Il a grandi en Seine-Saint-Denis, surtout avec sa mère, dans une cité qu'il décrit comme rongée par la drogue et la violence. Se présentant comme enfant des classes populaires, il défend une union des droites façon Meloni en Italie. Jordan Bardella se définit d'ailleurs comme le chef de l'opposition. Il raconte notamment les rencontres de Saint-Denis à l'été 2023, durant lesquelles, écrit-il, il est le seul à tenir tête au président Macron, qu'il accuse de n'avoir aucune conviction. Il a aussi à cœur de répondre aux critiques sur son absentéisme au Parlement européen, ne manquant pas de raconter dans son livre des voyages en train entre Paris et Strasbourg. Évidemment, il y a des mots de reconnaissance pour sa mentor Marine Le Pen, mais le jeune Bardella publie aussi son livre au moment où elle pourrait voir sa quatrième candidature à la présidentielle sérieusement gênée par son procès pour détournement de fonds publics. Certains y verront les prémices d'une possible émancipation.
Loin des positionnements politiques, se tient mardi prochain à Paris un grand salon de l'emploi pour l'insertion professionnelle des réfugiés en France. L'objectif est de mettre en contact des entreprises et des réfugiés, mais aussi de leur fournir les outils nécessaires pour trouver un emploi, comme cet atelier de création de CV auquel a assisté Gali Bonin pour nous.
Votre CV, du coup, alors je me permets.
Attablé avec une conseillère, Bijou écoute attentivement les suggestions pour améliorer son CV. Arrivée de Kinshasa il y a 9 mois, elle vient d'obtenir son statut de réfugiée.
Moi, au Congo, j'ai travaillé plus de 10 ans dans une école américaine. J'étais réceptionniste.
Et Bijou, vous avez déjà tenté de postuler à des emplois depuis que vous êtes arrivée en France ?
Plaisir. Plusieurs fois, je commence à postuler des 5h jusqu'à 9h.
Une recherche acharnée qui n'aboutit pas. Elle compte sur ce salon pour faire la différence.
Je suis fatiguée de rester à la maison. Et là, je me dis que franchement, pour le moment, j'ai besoin de travailler.
Là-bas, vous voyez, il y a une petite table avec une nappe rose. C'est le pôle orientation.
Une fois le CV complété, les visiteurs font le tour des stands. IKEA, Burger King, L'Oréal, une trentaine d'entreprises ont fait le déplacement, comme l'espérait Yasmine Leroux de l'association Tent France, co-organisatrice de l'événement.
L'élément le plus important, c'est de rencontrer les employeurs et d'avoir accès aux offres d'emploi. Mais on a tenu également à apporter un certain nombre de services de soutien aux candidats réfugiés pour les aider dans leur recherche d'emploi.
Parmi ces services, des tests de français et des ateliers de préparation aux entretiens d'embauche pour faciliter l'intégration des réfugiés au marché du travail.
C'était le reportage de Gali Bonin. Et puis l'Allemagne célèbre ce week-end les 35 ans de la chute du mur de Berlin. Des festivités sont prévues dans la capitale allemande. Des militants du monde entier ont été invités, comme le groupe punk russe Pussy Riot, bête noire du Kremlin, qui se produira devant l'ancien siège de la Stasi, la police secrète de la RDA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de RFI.